bonjour à tous, merci d'être présents pour ceux qui sont là à la conférence sur le grand succès du cinéma introuvable. Je suis avec Gérard Ferry-Babel qui va nous parler de ce projet. Je vais d'abord demander de te présenter toi-même. Je pense que qui travaille à Philippe Dessel et qui a compilé ce projet qui n'est d'abord pas le tien.
Non.
Je vais te demander d'expliquer tout ça assez brièvement.
Alors moi je suis donc Gérard Ferry-Babel, pour ainsi dire personne. Je suis le nègre de Dylan Pello, qui a écrit donc les grands succès du cinéma introuvable. Dylan Pello a réalisé, a travaillé sur ce projet pendant une dizaine d'années. Et je l'ai suivi une partie de son projet. Et en janvier de 2013, il est décédé brutalement d'une rupture d'anévrisme. Et j'avais demandé à Fuy de la Ciale, qui prépubliait déjà son travail, s'ils avaient l'intention de tout simplement de continuer le projet. Ils m'ont dit oui, on veut faire un bouquin. Et c'est donc moi qui ai hérité de ce boulot-là. Alors le travail était complètement fini, mais il fallait les textes étaient encore à revoir, c'était juste un premier jet. Donc c'était un énorme travail d'abord d'aller rechercher son matos et puis retravailler les textes et donc compiler ce bouquin.
Comment tu définirais le projet de Dylan Pello en fait? Est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être ceux du fond ou ceux qui nous prêtent une oreille à peu près attentive, ce qu'est cet ouvrage qui est quand même hyper particulier et qui s'approche quand même un peu de SF, mais qui ne parle pas forcément que de SF, qui parle beaucoup de cinéma, mais c'est quoi?
Alors le principe, c'est des films. En fait, il avait l'idée de films qui auraient disparu pour des raisons différentes, soit des films qui ont été oubliés, des films qui ont été perdus, des films qui ont été détruits par leurs auteurs, ou par des champignons, ou par des choses comme ça. Et donc il a créé tout un univers, alors pas seulement autour de la science-fiction, mais de tous les genres. Et il a recréé des films qui souvent s'inspirent de films réels, comme là par exemple « Bachelot et Léger dans le ton », évidemment c'est le film « Le voyage fantastique » de Fleischer. Et il a aussi inventé les réalisateurs, les acteurs, la bio de ces réalisateurs et acteurs, voire des techniciens, il est allé vraiment dans le détail, à tel point quand j'ai travaillé sur les textes, je me demandais même des fois si ce n'était pas du vrai. Et le principe, c'est tout bête, hein. c'est ce qu'on fait nous tous chez soi quand on pastiche un type de film et puis on imagine des conneries. Ben, ça a commencé comme ça, en fait, un jour, fin des années 90, ils faisaient un repas avec des copains. Et puis, à la fin du repas, qui n'était pas arrosé d'ailleurs, ils ont commencé à délirer là-dessus et à sortir des noms. Alors, la machine à voyager dans le ton, les dents de mes mères, des choses comme ça. Et puis, il y en a toujours un dans ces cas-là qui dit « Ah, ce serait marrant qu'il y en ait un qui fasse un bouquin. » Et puis, bah, des fois, il y en a un dans ces cas-là qui dit « Chiche ». Et c'est ce qu'a fait Dylan. Pendant 2-3 jours, il s'est enfermé et puis il avait pris des notes. Et puis, il est revenu avec cette idée et puis il a commencé son projet tout seul. Alors ensuite, il a eu un atelier à Nancy. Il y a une MJC qui lui a laissé un espace pour pouvoir bosser. Et puis il a commencé, alors il a d'abord travaillé tout comme, alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il a travaillé comme au cinéma. C'est-à-dire qu'il a fait des storyboards, des scénarios, des histoires complètes. Et puis ensuite, il a fait tout un cahier avec les différentes photos qu'il voulait faire, les différentes photos qu'il voulait fabriquer. Le principe étant des affiches de films, des photos de tournage, des photos de plateau, tu sais, d'exploitation. Et à partir du storyboard, il y a les copains qui venaient, et puis tiens, toi tu serais bien en pirate, toi tu serais bien en astronaute, toi en Frankenstein. Alors il y en a deux, trois des proches d'ailleurs qui sont quasiment sur toutes les photos, comme Valérie Laurent, par exemple, qui t'a suivi depuis le début. Alors moi évidemment je suis dedans dans deux, trois films. Puis alors, bien sûr les copains, la famille, tout le monde y est passé. Il y a une paire d'auteurs ici d'ailleurs qui sont dans les photos.
Si vous regardez bien, je crois que le commandant là-bas, avec son code Mahou, vous rappelle peut-être un auteur de SF francophone assez connu, qui a été président du Festival des Utopias pendant de nombreuses années, qui est Pierre Bordage, qu'on salue bien. Et si vous regardez en premier plan, Gaprimet et Sarah Bock, qui est modératrice sur pas mal des événements de Terre Ronde. Moi j'avais une question, comment ça se passe?
Il y a aussi Marc Caro et Jean-Jacques Benex.
Et qui sont, je pense, les deux méchants du
groupe. Je pense.
Comment ça se passait d'ailleurs ces prises de vue?
Alors on était. Chaque acteur était pris séparément sur un fond blanc, alors avec un costume ou pas. Ça dépendait, mais généralement en costume, sur fond blanc, ils nous prenaient dans les différentes positions. Par exemple, ici, on voit les quatre personnages, là, ils se sont jamais croisés, en fait. Ils ont fait ça chacun leur tour. Alors, en revanche, celui-là, il l'a fait Épinal au moment des Imaginables, donc je pense pas qu'il ait utilisé son studio, il l'a dû le faire sur place. Mais d'habitude, c'était comme ça, ils nous prenaient, je dois avoir quelques exemples là. Et ensuite, il faisait de la composition, d'image. Je vais peut-être essayer de trouver un PSD qu'on pourrait voir. Ouais, ça va être le making of, parfait. Ça, par exemple, c'est un croquis. Seul dessin animé de son projet, dont j'ai oublié le nom, qui n'est pas dans le livre. Donc ça c'est un croquis de lui. Avec ça que c'est Mac. Attendez. Voilà par exemple. Voilà. Donc là, voilà Dylan Pello ici. Et puis là, un de ses acteurs, c'était un de ses copains. Donc je pense que c'était pour un film de guerre des Afghans, des trucs comme ça. Une espèce de Rambo. Et donc il prenait tout le monde séparément. Il dit prends la pause, c'est comme ça. Et souvent d'ailleurs quand on bossait on savait pas pourquoi on posait en fait. Puis, de toute façon tout le monde s'en foutait, on était tous très contents de participer à son projet. Et le voilà en train de prendre des photos. J'en ai une qui est bien parlante. Alors voilà en train de diriger par exemple devant le fond blanc. Alors c'était là où il avait son atelier, c'était super bas de plafond, ça faisait moins de 2 mètres. Donc ni moi ni lui on faisait tout complètement. Et donc il y avait cette grande toche blanche qui permettait après de faire des découpages facilement. Voilà, c'est dommage, c'est pas droit. Voilà, ça c'est Valérie Laurent qui joue plein de rôles, dont Tarzan, dans toute la série des Tarzans. Et c'est dans son atelier où il y avait tous les trucs de maquillage. Alors il faisait lui-même les maquillages, notamment d'horreur et tout ça, il faisait ça quand il était gosse. Je cherche une image qui normalement est vachement parlante. Ici par exemple, Lefred Touron, le dessinateur de Fluide Glacial et du Canard Enchaîné, entre autres, qui est nancéen aussi, donc sur pas mal de trucs. Ah bah voilà. Là c'est moi, on ne se moque pas. Et c'est ma fille qui à l'époque avait 2 ans. Et il avait besoin il faisait une affiche d'un faux film de Kung Fu qui s'appelait Les Nems à Vif. Et donc on avait habillé ma fille. Ma femme est chinoise, donc ma fille, on voit elle un petit peu comment elle est très. Et donc il faisait un des personnages sur l'affiche qui. En fait, elle arrive comme ça et puis elle donne un coup à un type. Donc moi, je la portais pour la prise et puis après, on l'a effacé sur Photoshop, donc moi et puis mes mains et tout ça. Et ma femme joue aussi dedans, en costume chinois, voilà un peu des exemples. Et ensuite, après venait tout le compositing, là par exemple, il faisait un compositing comme dans les vieux films de science-fiction, c'est-à-dire un truc avec plein de plans différents, avec des bouts de maquettes, des bouts de dessin, des bouts de plastique, Photoshop, des trucs comme ça. Et ça, par exemple, la navette de la machine enregistrée dans le ton, c'est un de ses copains, nos copains, qui s'appelle René Maury, qui est architecte et qui a fait cette maquette-ci. Lui travaillait plutôt le bois. Il y avait d'autres copains qui étaient plasticiens aussi, qui bossaient plutôt le métal. Donc, pour un film qui s'appelle Star Trash, il a fait une espèce de faucon millénium qui s'appelle le pigeon polonium, qui est une navette. Pour donner une idée, c'était un truc en métal. Comme ça.
Comac, et qui pèse 15 kilos.
et avec tous les détails d'un vaisseau spatial qui ressemble vraiment d'ailleurs au Faucon Millennium. Et donc il faisait travailler tous les gens qui avaient des capacités. Par exemple, la femme de Lafayette Touron qui travaille dans le textile faisait des costumes. Il empruntait beaucoup de costumes à l'Opéra de Nancy. Il fabriquait lui-même pas mal de choses, dont des armes en latex, des masques en latex, des Frankenstein, tout ça. Et puis après, voilà, il combinait tout ça.
Et toi, comment tu es arrivé à rencontrer Dylan et à t'intégrer plus ou moins dans le projet, en fait ?
Alors, moi, c'est une longue histoire compliquée. Quand j'avais 9 ans, en 85, il y avait un tournage sur Nancy d'une fiction qui s'appelait La Mission. Et le réalisateur était un copain de la famille. Mon père était réalisateur aussi. Et il me dit, est-ce que tu veux jouer dans un film ? Alors moi, ouais, chouette, c'est quoi ? Il dit, oh, bah, c'est un film fantastique. Oh, super ! Et puis en plus, ça s'appelait La Mission. C'était la même année où est sorti le film de Roland Joffé, La Mission. Donc je disais à mes camarades, j'ai tourné dans La Mission de Roland Joffé. Bon, ouais. Et donc, c'était un film de SF apocalyptique. Une espèce d'histoire de Mad Max avec des gosses qui sont... Il n'y a pas d'adultes. C'est des gosses qui sont perdus, qui survivent comme ils peuvent dans un monde sans soleil. Et leur objectif, c'est de retrouver le soleil et puis de le faire réapparaître à nouveau. Et ce film était un scénario de Pierre Pelot, l'écrivain vosgien, que vous connaissez sûrement. Et l'idée du film était de Dylan, qui avait 16 ans. Et qui avait écrit un petit traitement, et puis qui faisait également, qui était aussi figurant sur le film, et qui faisait aussi quelques costumes. Mais on s'est croisés sans se connaître, et d'ailleurs, pour la petite histoire, je viens de le reprojeter à Nancy dans un hommage à Dylan, et j'étais très étonné de voir que toutes les scènes où j'apparais, moi, avec mon frangin, derrière moi, c'est les scènes où apparaissent Dylan, qui est toujours d'ailleurs avec un masque, un machin, parce qu'il était timide, il ne voulait pas qu'on le voie. C'était assez drôle de voir que, voilà. Plus de 20, 30 ans plus tard, ben c'est moi qui reprenais dans la même situation, quelque part. Et ensuite, donc après, je ne l'ai pas rencontré, en fait, on était ensemble. Mais, en 2003, il est venu je rentre chez mes parents et je vois un type en train de scanner des bouquins de cinéma au bureau de mon père. Je lui dis bonjour, il me dit salut, je suis Dylan Pelot. Je lui dis ah bah oui, bah, on se connaît. Et il scannait justement des vraies affiches de films. Pour pouvoir lui travailler dessus, enfin s'inspirer pour bosser ses propres affiches. Et donc on a échangé là-dessus, des titres à la con et tout. J'avais d'ailleurs sorti un qui n'a pas pris, je trouvais très bien, c'était Apocalypse Mao, la guerre du Yuckman. Et il a pas retenu. Et puis on s'est revu encore après quelques temps, quand il faisait sa première expo du travail en cours. Et là j'ai commencé à collaborer avec lui. Moi, en faisant du détourage Photoshop en particulier, puis évidemment en étant pris en photo. Et puis après, sur la fin, quand il a tout fini, on en discutait beaucoup. Et c'est que quand il est mort que moi, j'ai repris la main sur le travail, enfin, en tout cas, qu'on m'a proposé de reprendre la main.
Tu disais qu'il faisait aussi des expos. Est-ce que tu peux nous montrer, détailler un peu plus toutes les activités avec ce qu'il avait, puisqu'on a quand même un petit court-métrage qu'on vous a réservé de Dylan.
Je pourrais montrer ça, oui.
Oui.
Maintenant. Le truc, c'est que...
Maintenant,
non, mais en fait, il a fait les Beaux-Arts assez jeune, à 16 ans, justement, quand on s'est croisés.
Oui. Je vais juste passer le livre au public, si vous voulez le faire, d'ailleurs.
Donc il a fait les Beaux-Arts à 16 ans, et il est sorti des Beaux-Arts, il a fait les Beaux-Arts à 16 ans, et il a fait pas mal de petits courts-métrages, de films, alors souvent des pastiches de films bis ou films d'horreur. Et il a même d'ailleurs bossé, il a fait quelques courts-métrages que je n'ai pas encore retrouvés, mais je vais les trouver avec les frères Solé, Julien et Vincent Solé. Qui travaillent à Pied Glacial, qui sont les enfants de Jean Solé. Et en dehors de ça, il a fait pas mal de maquettes, de statues, de masques, alors de maquillage pour des courts-métrages de potes ou pour d'autres trucs. Et toujours plus ou moins sur le thème de l'horreur, mais en même temps, il était un vrai cinéphile, il était vraiment calé sur tous les sujets, hein, pas seulement sur la science-fiction et l'horreur. Et d'ailleurs, en 97, il a fait vraiment son premier vrai grand film, qui d'ailleurs a quelque part inspiré aussi l'encyclopédie, et que moi, j'ai réintégré dans l'encyclopédie, bien qu'il ne voulait pas, je dis, t'es complètement con de pas le mettre, parce que c'est complètement dans le ton. Donc c'est la seule trahison que j'ai fait, avec l'accord de ses parents, bien sûr, c'est de réintégrer ce film en tant qu'affiche au projet. Et le voici. Alors par contre, le son va être un peu déplorable, mais on a fait tout ce qu'on a pu. Ça, je vous laisse découvrir le truc.
We are leaving from an unknown planet since a meteor old. But tonight they are coming. They are here. In the middle of this deep night, the only one to witness that the nightmare is going on, this young biker, his given name Valentine. His name, nobody has recorded.
Meuble.
Bon, on a
des petits soucis techniques. On vous avait prévenu tout à l'heure que le son, ce serait compliqué. Et comme le son entraîne l'image, il y a une petite pause juste pour vous relaxer.
Non, mais en même temps, c'est exactement comme le bouquin, du coup. C'est,
voilà.
C'est très bis, c'est très bricolé.
Ouais, bon. Ouais. Oh, non, c'est
bon. Là, ça marche, ouais, ça marche.
Oui, ça fonctionne très bien.
I can't. You won't believe your eggs. You won't believe your eggs.
Oh, you're so boring.
But yes, it's true. You're not cool, I'm good.
Well, it's only the same thing with him.
Nevertheless, a man's going to rise and try to communicate with him.
Oh, a dwarf. It seems it's still breathing.
Well, well, now do you feel better now? Huh?
They are not pretty.
Friends?
They are bad.
Oh my goodness, I never told you to tell again.
Hey guys, what about a good mushroom veloute?
Great.
Nobody won't have work to escape them. Nobody.
Fucking bastard, the soap is still in Paul's Dutch.
No pity for the youth. Erotic girls. The incredible mutation is marching on. The new and the invasion now of the garden, coming venue from the space. Venue coming from the space. Venue Jonas Pias. Stop a thing to stand. Access with 0% silicon. 0% silicon. A picture movie that will be a reference in its time. Henceforth, the short movie, the event of the year. Shortly, the answer was proved. Shortly, the answer was proved. The answer was proved. The answer was proved to straight.
Alors, fait. C'est le premier film que
c'est Dylan Pello,
qui est crédible. J'ai fait d'autres essais avant, mais c'était des oreilles achevées. Pourquoi le film fantastique? Parce que j'ai baigné depuis tout petit. C'est un des premiers cinémas auxquels j'ai été intéressé. Le Nain de Jardin en lui-même, il est plus support, mais c'est plus une réflexion sur le cinéma en général américain qui arrive, que l'on consomme.
Bientôt version française. Bientôt version française intégrale. Bientôt version française intégrale. Intégrale bientôt version en français. Bien.
Donc voilà, comment faire une transition? En parlant de transition d'ailleurs, toi qui, comment ça s'est passé? C'est lui qui t'a recontacté pour, après la mort de Dylan, pour publier? C'était une volonté qui était déjà dans le... Est-ce qu'on m'entend?
En fait,
m'entend
mieux. Quand Dylan est mort, il avait déjà commencé à pré-publier son travail dans le magazine. Et je suis allé donc à la morgue. Par l'hôpital où il était, j'ai croisé le Fred Touron, à qui j'ai dit, écoute, est-ce que Fluid va continuer à prépublier le travail? Et il m'a dit, je sais pas, je vais voir. Et effectivement, après, j'ai eu un coup de fil de Lindin qui m'a dit, on peut continuer. Et puis, moi, je me proposais de le renvoyer des fichiers juste pour continuer la prépublication, parce que je pensais pas qu'il voulait faire le bouquin. Et en fait, il m'a dit, si on va faire le bouquin, si tu veux, on te le propose. Alors, j'ai dit oui tout de suite, bien sûr. Bon, c'est là que Pauvre l'horreur a commencé, en fait.
Et bien, comment ça s'est passé pour toi? Tu avais un stock de matériel, enfin, tu avais du matériau qui était déjà prêt. Ben, avais d'autres choses qui étaient en cours de travail, mais tu savais comment ça se passait?
Non, quand j'ai commencé par aller chez ses parents, où j'ai récupéré tout ce qu'il y avait d'intéressant dans l'ordinateur. Et ben là, il fallait que je me démerde avec ça. J'avais tout, mais il fallait que je trouve les dernières versions des affiches, que j'identifie ce qui était fini, pas fini, et en même temps que... qu'il y avait des textes. Alors le problème en plus, c'est qu'on pouvait pas mettre l'intégralité du truc, donc j'ai mis que la moitié. Il y a 150 films en gros en tout, là, il y en a à peu près 80. Et puis, il y a des films, pour les besoins de l'édition, qu'il fallait mettre en avant plus que d'autres. Et pour lequel il avait souvent pas écrit de texte. Et du coup, il a fallu que... Alors, soit le texte était trop court, il fallait le rallonger, soit le texte était trop long, il fallait raccourcir. Après, il fallait passer à l'entonnoir de l'édition, quoi.
Et comment ça s'est passé, du coup, puisque Dylan n'était plus là?
Bah, c'était atroce, parce que quand on prend comme ça le travail de quelqu'un, bah, on se doit le faire avec un certain respect du boulot. Et des fois, quand on doit écrire quelque chose, alors c'est vachement facile, on a l'affiche, il n'y a plus qu'à avoir un petit peu d'imagination. Mais surtout, moi, ce qui m'importait, c'était d'écrire dans le ton de Dylan. Alors j'en ai proposé quelques textes à Pierre dans le livre, qui ne sont pas crédités. Et le mien non plus d'ailleurs, tout est crédité au Dylan. Et j'en ai fait moi-même, et à chaque fois, je les faisais viser par Pierre et puis par Yann Ladin, qui connaissait aussi Dylan. Et puis même des fois je montrais à ses copains proches et tout, ce que t'en penses. Mais seulement après donc je validais mon truc. Bah, le problème était de ne pas devenir schizophrène, parce qu'on doit forcément, de toute façon, même en dehors des réécritures de texte, on est obligé de se fondre dans la manière de faire de quelqu'un qui n'est pas forcément la vôtre. Et du coup, c'est un petit peu difficile à gérer psychologiquement. Plus le fait qu'on ne fait pas son deuil parce qu'on est toujours dedans. Et donc c'était difficile, c'était assez difficile. J'ai mis 6 mois vraiment à me sentir à l'aise dans ce boulot-là.
Et des retours sur cette publication? Les retours que tu as eus ont été...
J'ai eu des bons retours, ouais, de plus en plus d'ailleurs. Le livre a mis du temps à décoller. Là, il commence vraiment à fonctionner. Et il y a plein de gens qui me disent, ouais, c'est génial. Et tout. Bah, hier, j'ai eu un retour de Patrice Lecomte, le réalisateur. J'ai su par Didier Tronchet, le dessinateur, il m'a dit, écoute, je l'ai envoyé à Patrice Lecomte, qui pousse à d'enfer. Et puis un autre réalisateur dont j'ai oublié le nom, pareil.
Et c'est quoi les projets, du coup? Est-ce qu'il y a des expositions
Alors on a fait, la première chose qu'on a fait après sa mort, c'est une exposition de son boulot. Moi j'ai tiré ses affiches, je l'ai tiré en format affiche de ciné. D'ailleurs, j'ai de nouveau râlé parce que je l'engueulais de son vivant en lui disant « Mais tu fais chier, tes résolutions sont trop basses pour des affiches. » Et il dit « Fais des trucs plus gros. » Il dit « Ouais, je m'en fous, c'est pour un bouquin. » Je lui dis « Mais t'es con, quoi, c'est des affiches de ciné. T'en feras des expos et tout, faut que les gens voient ça comme des affiches. » Il dit « Ah, mais non, tu m'emmerdes. » Bon, voilà, le Vosgien, quoi, qui râle tout le temps. Heureusement, les résolutions étaient quand même assez suffisantes pour être gonflées en 160 par 120. Et on a fait une super expo à Paris, au Point Éphémère, et qui a vachement bien marché. Les gens arrivaient. Alors c'est génial, parce que ça passe, c'est de l'art ou du cochon. Et le plus beau truc, c'est que la plus belle histoire sur ce bouquin, c'est l'éditeur, donc Vincent Solet, qui fait travailler dans l'édition à Fluide, voulait absolument qu'à la fin du bouquin, je mette un making of, les images que je viens de vous montrer. Bon, ici, on est entre nous, ça va. Et moi, je disais non, faut pas les mettre. Il me dit si, c'est bien de voir comment ils travaillent. Mais je dis mais non, parce qu'on va voir que c'est du faux, etc. Mais il dit mais ça se voit que c'est du faux, de toute façon. Je dis mais c'est pas le problème, c'est quand prenons un auteur de SF, par exemple, on parlait d'Arthur C. Clarke quand il a fait 2001, quand il a écrit 2001. À la fin, il fait pas un chapitre en disant alors voilà comment j'ai écrit mon bouquin, voilà comment les idées me sont venues. Ça nous fait sortir du livre. Alors on sait que 2001, c'est pas vrai. Et on sait que c'est d'anticipation, que c'est du faux, etc. Mais on se fond dedans et puis on vit le machin. Je dis c'est pareil. Il m'a dit mais non, bah t'es con. Alors j'ai tenu bon et j'ai cédé sur d'autres trucs, mais ça j'ai pas cédé. Et même moi, dans tous les textes que j'ai mis, qui sont périphériques du bouquin, je laisse quand même planer le doute, y compris dans la postface, etc. Bon, je révèle le truc, mais sans plus. J'ai eu ma récompense quand. Laurent Ruquier a parlé du bouquin à son émission d'Europe 1. Et là, j'étais avec ma femme, on a écouté le podcast, on a explosé de rire parce que Laurent Ruquier monte au ah oui, c'est marrant, c'est tout. Alors il cite des titres et l'autre dit ah, mais c'est pas vrai, c'est des conneries. Et là, Laurent Ruquier dit non, non, c'est pas des conneries, c'est des vrais films, la preuve. Et il retourne le bouquin, il dit La carte de couve, elle est écrite par l'éditeur. Donc c'est ça qui nous a fait vraiment marrer.
Et quelle est la suite du projet par rapport à tous ces matériaux?
Alors, il y a un tome 2, comme on dit, qui est dans les tuyaux, mais il sortira quand, ça j'en sais rien, c'est pas moi qui suis maître de ça. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas mettre tous les meilleurs trucs dans le tome 1, qui nous en reste quand même. Et puis, sur Dylan, il y avait des projets. Alors, avant de faire tout ça, il faisait beaucoup de littérature jeunesse, notamment Victor Kipet, que peut-être vous connaissez, avec Matisse, dessinateur. Et en bossant, j'ai découvert un scénario pour un ultime tome de Victor Kipet. J'avais fait voir Matisse en disant « Est-ce que tu connaissais ça ?» Il dit « Oui, oui, il l'avait donné. » On avait l'intention de le faire. Donc là, ils sont en train de voir avec leur éditeur si c'est possible. Donc il y aura éventuellement un tome qui va sortir. Il a écrit un roman qui est en train d'être travaillé, qui devrait sortir aussi. Alors les dates, par contre, j'ai pas. Et puis après, il y avait des projets qui avaient commencé, qui avaient l'air vachement marrants d'ailleurs, dont j'ai quelques brouillons. Et on verra plus tard si on les met en œuvre. On va trouver un dessinateur pour quelques trucs.
Et toujours la publication dans Fluide de ces affiches.
Il y a toujours dans Fluide, chaque mois, la pré-publication. D'ailleurs, j'ai celle du mois prochain que j'avais fait spécialement pour les Utopiales. Et qui est...
Je te laisse
te montrer. Voilà. On les présente sous forme de fiches, comme dans le magazine Première, comme il y avait à l'époque. Donc les fiches à découper, où il y a les photos des affiches, et de l'autre côté, les résumés, les petites histoires des films.
Et je vais te poser peut-être une dernière question piège avant de passer la parole au public. Pour ceux qui ont suivi, c'est quoi le film que tu préfères? De tout le matériel que tu as eu, c'est quoi ton coup de cœur?
Ah, de lui?
Ouais.
Il y en a un que j'aime bien, c'est pas mon préféré, mais c'est celui auquel je pense toujours en premier. Le jour où je suis allé chez mes parents pour récupérer le matos dans l'ordi, c'était assez dur, je me sentais comme un fossoyeur. Ses parents faisaient la gueule, je faisais la gueule, c'était deux semaines qu'il était mort. Donc c'était un petit peu triste et tout, puis à son père, écoute, j'y vais, donc je vais dans la chambre de Dylan, la chambre qui devait tout ramener dans son ancienne chambre, il avait vidé son appart, donc Et il se trouve que sa chambre est à côté du bureau de Pierre, et puis Pierre donc est allé à son bureau. Et à un moment, donc, je fous dans les trucs et j'explose de rire. Alors il vient voir, il dit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, j'étais tombé sur une affiche que je connaissais pas. C'était Bastille de la guerre du feu, alors, un mélange de la guerre du feu et de Jurassic Park, et ça s'appelait La guerre du fumé. Un film 100% vosgien. Et sur le coup, ça m'avait fait vachement marrer, et du coup, on a regardé d'autres affiches avec Pierre, et puis en fait, c'était tellement drôle, ça a brisé la glace, et du coup, ça nous a permis de. C'était vraiment le début du truc, c'était ça. Quoi.
Bon, on va lui repasser la parole quand même, je pense que les trois qui ont suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va pas vous manger.
Bonjour. Tout à l'heure, on a vu une bande-annonce d'un des films qui est sorti dans le bouquin. Est-ce que chaque film a sa bande-annonce ou une version vidéo?
Aucun film n'existe.
D'accord.
Sauf celui-ci. D'accord. C'est pour ça qu'il ne voulait pas le mettre. Oui, je ne vais pas le mettre, tu comprends, il existe. Voilà. Donc moi, je l'ai intégré parce qu'en plus, les nains, il les a réutilisés dans une autre affiche, Terminanin, donc le truc de Terminator. Bah d'ailleurs, celui-là, c'est une des fiches pour laquelle j'ai dû réécrire l'histoire. Parce que quand j'ai trouvé le film, le résumé que j'avais du film, c'était encore le résumé du vrai Terminator, avec juste des noms changés. Il n'avait pas encore travaillé l'histoire. Donc il a fallu que moi, je fasse dans le ton de son truc. Bon, c'était assez facile pour le coup. Le truc. Mais donc, moi, je l'ai réintégré. Par contre, la fiche des nains, justement. J'ai repris l'affiche qu'il avait fait à l'époque, mais j'ai pas pu mettre la main sur l'original. Et c'est un des acteurs du film que j'ai contacté qui avait gardé un flyer qu'il avait distribué à Gérard May, qui était tout pourri en couleur laser, tu sais, des photocopies laser d'époque, et avec le graphisme de fluide, on s'est tordu la tête pour réussir à ressortir les belles couleurs, les machins. Alors, moi, j'ai repassé des filtres pour faire un truc tout dégueulasse, et du coup, ça ressort pas mal. Mais donc, vraiment, pour répondre vraiment à la question, non, il n'y a aucun des films. Alors, au départ, quand je l'avais revu donc, en 2007, qui faisait son exposition, j'avais dit, ces affiches sont géniales. Alors, moi, quand j'étais plutôt dans l'audiovisuel, j'ai dit, moi, je ferais bien les bandes-annonces, les fausses bandes-annonces de tes faux films. Et elle dit, ah, ce serait une bonne idée. Et puis bon, alors, très vite, on s'est dit, on n'aura pas le temps. Puis en revanche, ce qu'on pourrait faire, c'est passer, faire une soirée de films faits à la maison, bricolés et tout. Et on a fait les fonds de tiroir de tous les copains et tout. Alors, dedans, il y a des films de Francis Culse, le Fred Touron, et d'autres personnalités aussi hein, qu'on a retrouvées. Même de mon père, quand il était étudiant, des choses comme ça. Et on a réussi à faire, alors ça tombait bien, c'était en 2008, on l'a fait le 29 février. Et j'avais dit, on annonçait un soirée, on la fera tous les ans, donc rendez-vous dans 4 ans. Et cette soirée, elle a vachement bien marché, on avait refusé du monde. Et on avait fait, enfin, je ne sais pas pourquoi ça nous avait pris comme ça, on avait dit entrée gratuite et on paye le coût. Ce qui fait qu'en fait, alors c'était génial. Donc on avait passé plein de films faits à la maison, là pour le coup des vrais films, mais qui n'avaient aucun rapport, sauf les nains. On voit bien de toute façon le ton des nains est complètement dans le ton du bouquin, même si. Alors ça a été fait presque 10 ans avant. Hein.
Voilà. Et est-ce qu'il existe un site internet où on peut retrouver toutes ces images ou c'est vraiment que le bouquin qui a été édité là-dessus?
Bon, alors sur internet, il y a un vieux site de Dylan. Vous tapez Dylan Tupelo, vous devriez tomber dessus. Où il y a ces vieux. C'était un truc de présentation lui-même, c'est pas terrible, mais il y a quelques images des autres trucs qu'il faisait avant. Et c'est très ancien. Sinon, il y a sur le site de Fluid, il y a une page qui est dédiée à Dylan au bouquin où il y a quelques photos. On a mis quelques photos qu'on n'a pas pu mettre parce que le problème c'est que pour chaque film, alors des fois j'ai juste une affiche, des fois j'ai Yari qui est deux affiches alternatives, et j'ai surtout aussi de temps en temps une à 20 photos d'exploitation de film. Voilà, dans le bouquin évidemment, par exemple Les Canons de la Patronne, j'avais 20 affiches d'exploitation. Ouais, je sais, les titres, moi je les dis comme ça, à chaque fois que je les dis, tout le monde se marre, alors moi j'ai l'habitude. Donc, donc je pouvais mettre que une ou deux, parfois trois photos, mais pas plus. Donc j'ai proposé à Fluid de mettre celles qu'on n'a pas pu mettre dans le bouquin et qu'on ne mettra pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? merci à tous d'être venus. On va s'arrêter là puisqu'il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'il y ait un volontaire qui se désigne maintenant ou jamais. Je t'annonce que tu es en dédicace juste après la conférence à la librairie en bas, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à passer voir Gérard, il n'y a pas de souci.
Alors je précise que pour les dédicaces, c'est Dylan qui signe.
Oui.
Vous n'avez qu'à venir voir comment.
Oui, oui. Enfin, on vous laisserait une petite surprise. Je demanderai au public de pouvoir nous ramener l'exemplaire qui était en train de tourner. Et puis on vous souhaite une bonne fin de festival. Merci.
Merci. Thank you.